France Culture.
Maurice Maeterlinck, Le Trésor des Humbles, Les Avertis. Ils sont connus de la plupart des hommes et presque toutes les mères les ont vus. Ils sont peut-être indispensables comme toutes les douleurs, et ceux qui ne les ont pas approchés sont moins doux, moins tristes, et moins bons. Ils sont étranges. Ils semblent plus près de la vie que les autres enfants et ne rien soupçonner. Et cependant, leurs yeux ont une certitude si profonde qu'il faut qu'ils sachent tout et qu'ils aient eu plus d'un soir le temps de se dire leurs secrets. Au moment où leurs frères tâtonnent encore autour d'eux, entre la naissance et la vie, ils se sont déjà reconnus. Ils sont déjà debout, les mains et l'âme prêtes. À la hâte, sagement et minutieusement, ils se préparent à vivre. Et cette hâte est le signe que les mères, à leur insu, discrètes confidentes de tout ce qui ne se dit pas, osent à peine regarder. Souvent, nous n'avons pas le temps de les apercevoir. Ils s'en vont sans rien dire et cela nous demeure à jamais inconnu. Mais d'autres s'attardent un peu, nous regardent en souriant attentivement, semblent sur le point d'avouer qu'ils ont tout compris et puis, vers la 20e année, s'éloignent à la hâte, en étouffant leurs pas. Comme s'ils venaient de découvrir qu'ils s'étaient trompés de demeure et qu'ils allaient passer leur vie parmi les hommes qu'ils ne connaissaient pas. Eux-mêmes ne disent presque rien et s'entourent d'un nuage au moment où ils se sentent blessés et où l'homme est sur le point de les atteindre. Il y a quelques jours, ils semblaient être au milieu de nous et ce soir, tout à coup, ils sont si loin que nous n'osons plus les reconnaître ni les interroger. Ils sont là, presque de l'autre côté de la vie, et l'on sent que c'est l'heure enfin d'affirmer une chose plus grave, plus humaine, plus réelle et plus profonde que l'amitié, la pitié ou l'amour. Une chose qui bat mortellement de l'aile tout au fond de la gorge et qu'on ignore et qu'on n'a jamais dite et qu'il n'est plus possible de dire, car tant de vies se passent à se taire. Et le temps presse. Et qui de nous n'a attendu ainsi jusqu'au moment où l'on ne pouvait plus lui répondre? Pourquoi sont-ils venus et pourquoi s'en vont-ils? Ne naissent-ils que pour nous affirmer que la vie n'a pas de but? À quoi sert-il d'interroger puisqu'on ne répondra jamais? J'ai été plusieurs fois témoin de ces choses, et un jour je les ai vus de si près que je ne savais plus s'il s'agissait d'un autre ou de moi-même. Un frère est mort ainsi. On eût dit que lui seul avait été prévenu, sans le savoir, tandis que nous savions peut-être quelque chose, sans avoir reçu cet avertissement organique qu'il recelait depuis les premiers jours. À quoi distingue-t-on les êtres sur lesquels va peser un événement très grave? Rien n'est visible et cependant nous voyons tout. Ils ont peur de nous, parce que nous les avertissons sans cesse et malgré nous, et à peine les avons-nous abordés, qu'ils sentent que nous réagissons contre leur avenir. Nous cachons quelque chose à la plupart des hommes et nous ignorons nous-mêmes ce que nous leur cachons. Ils passent entre deux êtres qui se rencontrent pour la première fois d'étranges secrets de vie et de mort et bien d'autres secrets qui n'ont pas encore de nom, mais qui s'emparent immédiatement de notre attitude, de nos regards et de notre visage. Et lorsque nous serrons les mains d'un ami, notre âme a des indiscrétions qui ne s'arrêtent peut-être pas sur le seuil de cette vie. Il se peut qu'il n'y ait aucune arrière-pensée entre deux hommes, mais il y a des choses plus impérieuses et plus profondes que la pensée. Nous ne sommes pas maîtres de ces dons inconnus et nous trahissons sans cesse le prophète qui ne sait pas parler. Nous ne sommes jamais avec les autres tels que nous sommes avec nous-mêmes, ni même tels que nous sommes avec eux dans l'obscurité. Et nos regards se transforment selon le passé et l'avenir qu'ils aperçoivent. Et c'est pourquoi nous vivons malgré nous sur nos gardes. En rencontrant ceux qui ne vivront pas, ce n'est pas eux que nous voyons, mais ce qui va leur arriver. Ils voudraient nous tromper pour se tromper. Ils font tout pour nous dérouter, et cependant, à travers leur sourire et leur ardeur à vivre, l'événement transparaît déjà comme s'il était le soutien et la raison même de leur existence. Une fois de plus, la mort les a trahis, et ils voient avec tristesse que nous avons tout vu et qu'il y a des voix qui ne peuvent se taire. Qui dira la force des événements et s'ils sont nous-mêmes ou si nous ne sommes qu'eux? Naissent-ils de nous ou bien naissons-nous d'eux? Les attirons-nous ou nous attirent-ils? Les transformons-nous ou nous transforment-ils? Ne se trompent-ils jamais? Pourquoi viennent-ils à nous comme l'abeille à la ruche et la colombe au colombier? Et où se réfugient ceux qui ne nous trouvent pas au rendez-vous? D'où viennent-ils à notre rencontre? Et pourquoi nous ressemblent-ils comme des frères? Agissent-ils dans le passé ou dans l'avenir? Et les plus puissants sont-ils ceux qui ne sont plus ou ceux qui ne sont pas encore? Est-ce hier ou demain qui nous transfigure? Qui de nous ne passe la plus grande partie de sa vie à l'ombre d'un événement qui n'a pas encore eu lieu? J'ai vu ces graves attitudes, cette marche qui semblait avoir un but trop prochain, ce pressentiment des grands froids, et cet œil qui ne se laissait pas distraire, en ceux même dont la fin devait être accidentelle et sur qui la mort allait s'abattre inopinément du dehors. Et cependant, ils se hâtaient autant que leurs frères qui la portaient en eux. Ils avaient le même visage. À eux aussi, la vie semblait plus sérieuse qu'à ceux qui doivent vivre. Ils agissaient avec la même attention sûre et silencieuse. Ils n'avaient plus de temps à perdre. Ils devaient être prêts à la même heure. Tant cet événement qu'un prophète n'aurait pu prévoir était à leur insu, la vie même de leur vie. C'est notre mort qui guide notre vie, et notre vie n'a d'autre but que notre mort. Notre mort est le moule où se coule notre vie, et c'est elle qui a formé notre visage. Il ne faudrait faire que le portrait des morts, car eux seuls sont eux-mêmes et se montrent un instant tels qu'ils sont. Et quelle vie ne s'éclaire dans la pure, froide et simple lumière qui tombe sur l'oreiller des dernières heures? Est-ce cette même lumière qui baigne déjà ces visages d'enfants lorsqu'ils nous sourient fixement et qui nous impose un silence qui ressemble à celui de la chambre où quelqu'un se tait pour toujours? Lorsque je me rappelle ceux que j'ai connus et que la même mort menait tous par la main, je vois une troupe d'enfants, d'adolescentes et d'adolescents qui semblent sortir de la même maison. Ils sont déjà frères et sœurs, et l'on dirait qu'ils se reconnaissent entre eux à des marques que nous ne voyons pas, et qu'ils se font, au moment où nous ne les observons plus, le signe du silence. Ce sont les enfants attentifs de la mort précoce. Lorsque je me rappelle ceux que j'ai connus et que la même mort menait tous par la main, je vois une troupe d'enfants, d'adolescentes et d'adolescents, qui semblent sortir de la même maison. Ils sont déjà frères et sœurs, et l'on dirait qu'ils se reconnaissent entre eux à des marques que nous ne voyons pas, et qu'ils se font, au moment où nous ne les observons plus, le signe du silence. Ce sont les enfants attentifs de la mort précoce. Ils avaient la même gravité sous un sourire plus ininterrompu et plus immatériel que le nôtre, et je ne sais quel air d'avoir peur de trahir un secret. Presque toujours, ils se taisaient lorsque ceux qui devaient vivre s'approchaient de leur groupe. Parlaient-ils déjà de l'événement? Ou bien savaient-ils que l'événement parlait à travers eux et malgré eux, et l'entouraient-ils ainsi afin de le cacher aux yeux indifférents? Ils semblaient par moments nous regarder du haut d'une tour. Et bien qu'ils fussent plus faibles que nous, nous n'osions pas les molester. Il est vrai que rien n'est caché. Et vous tous qui me rencontrez, vous savez ce que j'ai fait et ce que je ferai. Vous savez ce que je pense et ce que j'ai pensé. Vous savez exactement le jour où je dois mourir. Mais vous n'avez pas encore trouvé le moyen de le dire, fût-ce à voix basse et à votre propre cœur. Nous avons l'habitude de passer sous silence tout ce que notre main n'atteint pas. Et peut-être saurions-nous trop de choses si nous savions tout ce que nous savons. Nous vivons à côté de notre véritable vie, et nous sentons que nos pensées les plus intimes et les plus profondes même ne nous regardent pas, car nous sommes autre chose que nos pensées et que nos rêves. Et ce n'est qu'à certains moments, et presque par distraction, que nous vivons nous-mêmes. Quel jour deviendrons-nous ce que nous sommes ? En attendant, nous étions devant eux comme devant des étrangers. Parfois, ils se promenaient avec nous par les corridors et les cours, et nous avions peine à les suivre. Quelques-uns ne trouvaient pas leurs frères. Ils erraient seuls au milieu de nos cris et n'avaient pas d'amis parmi ceux qui n'allaient pas mourir. Et cependant, nous les aimions, et aucun visage n'était plus amical que le leur. Qu'y avait-il entre eux et nous, et qu'y a-t-il entre nous tous ? Au fond de quelle mer de mystère vivons-nous ? Ici régnait aussi cet amour qui ne s'exprime plus parce qu'il ne participe pas à la vie de ce monde. Il ne supporterait peut-être aucune épreuve. Il semble à chaque instant trahi, et la moindre amitié ordinaire a l'air de le vaincre. Et cependant, sa vie est plus profonde que nous-mêmes, et peut-être ne nous semble-t-il indifférent que parce qu'il se sait réservé pour des temps plus longs et plus sûrs. Il ne parle pas ici parce qu'il sait qu'il parlera plus tard, et ce n'est jamais ceux que nous embrassons que nous aimons le plus profondément. Il y a ainsi une part de la vie, et c'est la meilleure, la plus pure et la plus grande, qui ne se mêle pas à la vie ordinaire. Et les yeux des amants eux-mêmes ne percent presque jamais cette digue de silence et d'amour. Ou bien les laissions-nous seuls parce que, quoique plus jeunes, ils étaient nos aînés? Savions-nous qu'ils n'avaient pas le même âge et les redoutions-nous comme des juges? Leur regard paraissait déjà moins mobile que les nôtres, et lorsqu'ils s'appuyaient par hasard sur nos agitations, elles s'apaisaient sans raison. Et un silence incompréhensible s'étendait un instant. Nous nous retournions, ils nous observaient et riaient sérieusement. Je me rappelle le visage de deux d'entre eux qu'une mort violente attendait. Mais presque tous étaient timides et tentaient de passer inaperçus. Ils avaient je ne sais quelle pudeur mortelle et semblaient demander pardon d'une faute inconnue et prochaine. Ils s'avançaient. Nous échangions un regard. Nous nous écartions sans rien dire. Et nous comprenions tout sans rien savoir. Thank you. and secrecy », s'écrit Carlyle. Il faudrait leur élever des autels d'universelle adoration, si ces jours étaient de ceux où l'on élève encore des autels. Le silence est l'élément dans lequel se forment les grandes choses, pour qu'enfin elles puissent émerger, parfaites et majestueuses, à la lumière de la vie qu'elles vont dominer. Ce n'est pas seulement Guillaume le Taciturne, ce sont tous les hommes considérables que j'ai connus, et les moins diplomates et les moins stratégistes de ceux-ci, qui s'abstenaient de bavarder de ce qu'ils projetaient et de ce qu'ils créaient. Et toi-même, dans tes pauvres petites perplexités, essaie donc de retenir ta langue durant un jour, et le lendemain, comme tes desseins et tes devoirs seront plus clairs. Quels débris et quelles ordures ces ouvriers muets n'ont-ils pas balayés en toi-même, tandis que les bruits inutiles du dehors n'entraient plus? La parole est trop souvent, non comme le disait le français, l'art de cacher la pensée, mais l'art d'étouffer et de suspendre celle-ci, en sorte qu'il n'en reste plus à cacher. La parole est grande, elle aussi, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus grand. Comme l'affirme l'inscription suisse, « Sprechen ist silbern, Schweigen ist golden », la parole est d'argent et le silence est d'or, ou, comme il vaudrait mieux le dire, la parole est du temps, le silence de l'éternité. Les abeilles ne travaillent que dans l'obscurité, la pensée ne travaille que dans le silence, et la vertu dans le secret. Il ne faut pas croire que la parole serve jamais aux communications véritables entre les êtres. Les lèvres ou la langue peuvent représenter l'âme de la même manière qu'un chiffre ou un numéro d'ordre représente une peinture de même ligne, par exemple. Mais dès que nous avons vraiment quelque chose à nous dire, nous sommes obligés de nous taire. Et si, dans ces moments, nous résistons aux ordres invisibles et pressants du silence, nous faisons une perte éternelle que les plus grands trésors de la sagesse humaine ne pourront réparer, car nous avons perdu l'occasion d'écouter une autre âme et de donner un instant d'existence à la nôtre. Et il y a bien des vies où de telles occasions ne se présentent pas deux fois. Nous ne parlons qu'aux heures où nous ne vivons pas, dans les moments où nous ne voulons pas apercevoir nos frères et où nous nous sentons à une grande distance de la réalité. Et dès que nous parlons, quelque chose nous prévient que des portes divines se ferment quelque part. Aussi sommes-nous très avares du silence, et les plus imprudents d'entre nous ne se taisent pas avec le premier venu. L'instinct des vérités surhumaines que nous possédons tous nous avertit qu'il est dangereux de se taire avec quelqu'un que l'on désire ne pas connaître ou que l'on n'aime point. Car les paroles passent entre les hommes, mais le silence, s'il a eu un moment l'occasion d'être actif, ne s'efface jamais, et la vie véritable, et la seule qui laisse quelques traces, n'est faite que de silence. Rassemblez vos souvenirs dans ce silence auquel il faut avoir recours encore afin que lui-même s'explique par lui-même. Et s'il vous est donné de descendre un instant en votre âme jusqu'aux profondeurs habitées par les anges, ce qu'avant tout vous vous rappellerez d'un être aimé profondément, ce n'est pas les paroles qu'il a dites ou les gestes qu'il a faits, mais les silences que vous avez vécus ensemble, car c'est la qualité de ces silences qui, seul, a révélé la qualité de votre amour et de vos âmes. Je ne m'approche ici que du silence actif, car il y a un silence passif, qui n'est que le reflet du sommeil, de la mort ou de l'inexistence. C'est le silence qui dort, et tandis qu'il sommeille, il est moins redoutable encore que la parole, mais une circonstance inattendue peut l'éveiller soudain, et alors c'est son frère, le grand silence actif qui s'intronise. Soyez en garde. Deux âmes vont s'atteindre, les parois vont céder, des digues vont se rompre, et la vie ordinaire va faire place à une vie où tout devient très grave, où tout est sans défense, où plus rien n'ose rire, où plus rien n'obéit, où plus rien ne s'oublie. Et c'est parce qu'aucun de nous n'ignore cette sombre puissance et ces jeux dangereux que nous avons une peur si profonde du silence. Nous supportons à la rigueur le silence isolé, notre propre silence, mais le silence de plusieurs, le silence multiplié, et surtout le silence d'une foule, est un fardeau surnaturel dont les âmes les plus fortes redoutent le poids inexplicable. Nous usons une grande partie de notre vie à rechercher les lieux où le silence ne règne pas. Dès que deux ou trois hommes se rencontrent, ils ne songent qu'à bannir l'invisible ennemi, car combien d'amitiés ordinaires n'ont d'autre fondement que la haine du silence. Et si, malgré tous les efforts, il réussit à se glisser entre des êtres assemblés, ces êtres tourneront la tête avec inquiétude, du côté solennel des choses que l'on n'aperçoit pas, et puis ils s'en iront bientôt, cédant la place à l'inconnu, et ils s'éviteront à l'avenir, parce qu'ils craignent que la lutte séculaire ne devienne vaine une fois de plus, et que l'un d'eux ne soit de ceux, peut-être, qui ouvrent en secret la porte à l'adversaire. La plupart d'entre nous ne comprennent et n'admettent le silence que deux ou trois fois dans leur vie. Ils n'osent accueillir cette hôte impénétrable que dans des circonstances solennelles, mais presque tous, alors, l'accueillent dignement. Car les plus misérables même ont dans leur existence des moments où ils savent agir comme s'ils savaient déjà ce que savent les dieux. Rappelez-vous le jour où vous rencontrâtes, sans terreur, votre premier silence. L'heure effrayante avait sonné, et il venait au-devant de votre âme. Vous l'avez vu monter des gouffres de la vie dont on ne parle pas, et des profondeurs de la mer intérieure de beauté ou d'horreur, et vous n'avez pas fui. C'était à un retour, sur le seuil d'un départ, au cours d'une grande joie, à côté d'une mort ou au bord d'un malheur. Souvenez-vous de ces minutes où toutes les pierreries secrètes se révèlent et où les vérités endormies se réveillent en sursaut. Et dites-moi si le silence, alors, n'était pas bon et nécessaire, si les caresses de l'ennemi sans cesse poursuivies n'étaient pas des caresses divines. Les baisers du silence malheureux, car c'est surtout dans le malheur que le silence nous embrasse, ne peuvent plus s'oublier. Et c'est pourquoi ceux qui les ont connus plus souvent que les autres valent mieux que les autres. Ils savent seuls, peut-être, sur quelles eaux muettes et profondes repose la mince écorce de la vie quotidienne. Ils sont allés plus près de Dieu, et les pas qu'ils ont faits du côté des lumières sont des pas qui ne se perdent plus. Car l'âme est une chose qui peut ne pas monter, mais qui ne peut jamais descendre. Silence, s'écrie encore Carlyle, qui connut si bien cet empire de la vie qui nous porte, plus haut que les étoiles, plus profond que le royaume de la mort. Le silence et les nobles hommes silencieux. Ils sont épars çà et là, chacun dans sa province, pensant en silence, travaillant en silence, et les journaux du matin n'en parlent point. Ils sont le sel même de la terre. Et le pays qui n'a pas de ces hommes, ou qui en a trop peu, n'est pas en bonne voie. C'est une forêt qui n'a pas de racines, qui est toute tournée en feuilles et en branches, et qui bientôt doit se faner et n'être plus une forêt. Mais le silence véritable, qui est plus grand encore et qu'il est plus difficile d'approcher que le silence matériel dont nous parle Carlyle, n'est pas un de ces dieux qui peuvent abandonner les hommes. Il nous entoure de tous côtés. Il est le fond de notre vie sous-entendue. Et dès que l'un de nous frappe en tremblant à l'une des portes de l'abîme, c'est toujours le même silence attentif qui ouvre cette porte. Ici encore, nous sommes tous égaux devant la chose sans mesure. Et le silence du roi ou de l'esclave, en face de la mort, de la douleur ou de l'amour, a le même visage et cache sous son manteau impénétrable des trésors identiques. Le secret de ce silence-là, qui est le silence essentiel et le refuge inviolable de nos âmes, ne se perdra jamais. Et si le premier-né des hommes rencontrait le dernier habitant de la terre, il se tairait de la même façon dans les baisers, les terreurs ou les larmes. Il se tairait de la même façon dans tout ce qui doit être entendu sans mensonge. Et malgré tant de siècles, ils comprendraient en même temps, comme s'ils avaient dormi dans le même berceau, ce que les lèvres n'apprendront pas à dire avant la fin du monde. Dès que les lèvres dorment, les âmes se réveillent et se mettent à l'œuvre. Car le silence est l'élément plein de surprises, de dangers et de bonheur, dans lequel les âmes se possèdent librement. Si vous voulez vraiment vous livrer à quelqu'un, taisez-vous. Et si vous avez peur de vous taire avec lui, à moins que cette crainte ne soit la crainte ou l'avarice auguste de l'amour qui espère des prodiges, fuyez-le, car votre âme déjà sait à quoi s'en tenir.